Il est 20h, c'est la rentrée et tout de suite c'est l'heure de On se lave et on se casse, l'émission féministe des casseuses d'ambiance de Radio Campus Paris, le 93.9 FM.
Dear fellow feminists, I'm here for all of the witches.
Pourquoi le féminisme ?
Est-ce que vous,
On ne peut plus rien dire.
Les femmes sont conditionnées à servir les autres et à ne pas s'occuper d'elles-mêmes.
Oh, je t'avais dit, elles en veulent au mec.
Le féminisme a donné aux femmes dès qu'elles pouvaient avoir droit au bonheur.
On est dans un pays où un violeur sur 100 est condamné.
Il y a un problème avec monsieur.
Non, il n'y a pas de problème.
Vous aussi, on se lève et on se bat.
Pas du clito.
Le chemin est long en tant que femme noire, en tant que femme grosse.
Bim, c'est encore la faute du patriarcat.
Encore une fois, c'est pas de la libération de la parole, c'est de la libération de l'écoute.
Il y a une violence systémique qui est faite aux femmes.
On se lève, on casse, on vous emmerde.
On se lève et on se casse sur Radio Campus Paris.
Bonsoir à toutes et à tous, c'est Pauline et vous écoutez On se lève et on se casse, j'espère que vous allez bien. C'est la rentrée, une rentrée après un été particulièrement agité, que ce soit sur la scène internationale où c'était franchement un peu du n'importe quoi, ou en France où notre ancien Premier ministre est finalement tombé. Une bonne nouvelle pour toutes les personnes qui avaient à cœur de ne pas avoir un Premier ministre complice de dissimulation d'abus sur des enfants dans une école privée, mais tout de même une mauvaise nouvelle pour les enquêtes parlementaires qui étaient en cours, des enquêtes et des commissions encore une fois arrêtées par une incapacité de nos dirigeants à faire un budget 2026 digne de ce nom, incapable de fixer une feuille de route qui ne commence pas par taper sur les plus modestes alors que les aides aux entreprises, elles, grossissent inexorablement sans aucun contrôle. Voyons donc ce que les mois à venir nous réservent. Voilà, c'est ce que j'avais à se dire à la rentrée, j'étais un peu vénère. Mais ce soir, on parle d'un sujet tout à fait différent. On va parler des attentats de novembre 2015, mais pas seulement. Dans On se lève et on se casse, on va plonger dans un récit qui parle de mémoire, de racisme, aussi de reconstruction et de lutte, au pluriel. Notre invitée, c'est la journaliste et autrice Aïda Amara. Elle publie un livre qui s'intitule « Avec ma tête d'arabe » aux éditions Hors d'atteinte. Elle y raconte son enfance, Arménie Montant, l'histoire de sa famille, malgré marquée par la colonisation de la France en Algérie et de sa violence, le choc du 13 novembre 2015 qui a bouleversé sa vie. Avec elle, on va parler de ce que ça veut dire grandir et travailler en France quand on est une femme racisée. On parlera du terme racisé aussi, du rôle de la famille et des racines algériennes dans la résistance et de féminisme intersectionnel, mais pas seulement, de plein d'autres choses. On va parler... de comment se reconstruire après une tragédie comme celle du 13 novembre 2015 dans un pays où les rhétoriques xénophobes et racistes prennent quand même de plus en plus de place dans les médias, dans le débat public. Comment transformer des assignations et des stigmates en force? Comment trouver de la liberté malgré tout? Bonsoir Aïda Amara.
Bonsoir Pauline.
Merci d'être avec nous.
On se lève et on se casse sur Radio Campus Paris.
Alors, Aïda Amara, ma première question, c'est une question un classique. Vous commencez votre ouvrage par une date charnière, donc le 13 novembre 2015, la date de plusieurs attentats à Paris, que ce soit au Stade de France, au Petit Cambodge ou au Bataclan. C'est un événement tragique, ça semble être une rupture dans votre vie. Comment cette soirée a été une rupture ?
Alors, je ne sais pas si je me suis rendu compte sur le coup que c'était vraiment une rupture. C'est souvent le cas hein, pour les victimes de multiples traumas. Sur le coup, on ne se rend pas compte. On est presque dissociés. C'est évidemment après que je me suis rendu compte de la déflagration que ça avait été dans ma vie. Et je dis souvent qu'il y a évidemment un avant et un après et que l'avant n'existe plus. Et donc, c'est en ça que cette soirée... voilà, évidemment, je la porte encore avec moi, malgré le fait qu'évidemment, pas de la même manière, parce que maintenant, ça va faire presque 10 ans.
Mmh. Donc ça a beaucoup changé, il y a eu beaucoup de temps qui est passé entre-temps. Ce texte, il est très hybride. Moi, quand je l'ai lu, j'ai eu l'impression d'être à la croisée d'un témoignage, de mémoire, d'un essai, du manifeste. Est-ce que c'était voulu, quand vous l'avez écrit, d'écrire à la croisée de ces genres, ou est-ce que ça s'est fait vraiment au fil du crayon, quoi ? Est-ce que, comment ça s'est fait ?
Bah, en fait, ça s'est fait de plusieurs manières. Déjà, j'ai osé parler à la première personne, ce qui est pour une journaliste vraiment pas naturel, et encore moins pour moi. Voilà, je viens d'une famille, et même, je pourrais dire, sans parler pour tout le monde, mais d'une culture où on dit plutôt « nous », où on est plutôt pudique sur ce qu'on peut ressentir. Donc, pour moi, c'était quand même quelque chose de politique. Après, c'est à la croisée parce que je parle aussi évidemment de ma famille, notamment, voilà, on y reviendra, mais je parle de l'Algérie pendant la colonisation. Et donc là, ça me semblait en fait beaucoup plus judicieux en fait d'utiliser presque la forme du roman, étant donné que voilà, moi je n'étais pas née en 1954 quand la guerre éclate, donc ça me semblait voilà, tout ça est aussi, malgré le fait que ce soit des souvenirs familiaux, reconstitués, et donc je pouvais pas me l'approprier totalement, donc j'ai utilisé une part de fiction aussi dans ce livre. Mais oui, après, je pense que en tant que journaliste, j'ai tout de suite eu envie d'être voilà, dans quelque chose de, oui, pas forcément un essai, parce que je voulais pas me placer comme sociologue, mais voilà, avoir cette forme un peu d'écriture plus journalistique. Et c'est mon éditrice, Marie Herman, qui m'a dit, bon, je pense que ce que tu as envie d'écrire là, c'est quelque chose de plus sensible, et dans le bon sens du terme, hein, pas de sensiblerie, mais plus sensible. Donc vas-y, quoi, et lâche un peu cette écriture journalistique qui te met à distance de certaines des émotions.
Qui a dû être compliqué à lâcher, parce que je sais pas, moi, quand j'essaie de lâcher ça, c'est hyper dur. C'est comme l'écriture de recherche, quoi.
Exactement, je pense que en fait c'était une façon de encore une fois de me protéger. De me dire, ok, j'utilise le jeu, mais voilà, c'est très journalistique, je vais vous montrer, je vais analyser tout ce que j'ai vécu, je vais mettre de la distance, alors un peu d'humour, parce que bon, voilà, faut pas non plus être déprimant. Et c'est aussi, voilà, comment moi j'appréhende la vie, mais voilà, cette distance un peu presque froide, quoi. Et bon, finalement le livre ressemble pas du tout à ça, et c'est pour ça qu'on a aussi choisi de l'appeler roman.
Le titre aussi est très fort et c'est voulu. Le terme arabe, qui est à l'origine neutre, a été récupéré par la droite, l'extrême droite, une partie des médias, pour qualifier avec une connotation négative une partie de la population française et de la population mondiale comme une sorte de bloc homogène. Vous le revendiquez dans ce titre. Qu'est-ce que vous avez voulu affirmer ? C'est pas une identité, qu'est-ce que c'est ?
Alors moi, je fais la distinction entre, parce que évidemment un terme, un mot, en fait, c'est un contenant, et ce qu'on y met dedans, en fait, c'est multiple. Donc j'explique dans le livre que quand j'annonce le titre à mon père, il m'engueule, hein. Il me dit, mais qu'est-ce que c'est que ce titre ? Déjà, t'es pas arabe, on n'est pas arabe. Pourquoi tu l'appelles pas avec ta tête d'Algérienne, avec ma tête d'Algérienne ou avec ma tête de Nord-Africaine ? Donc là, en fait, la discussion, elle est assez intéressante, parce qu'elle montre que pour mon père, en fait, le mot, en fait, il se définit que par son identité propre. Donc lui, il se considère comme Algérien, comme Kabyle, comme Berbère. Et pas du tout comme arabe. Donc ça, c'est ce pendant-là. Mais il y a l'autre pendant où, en fait, oui, il y a aussi en France le mot arabe. Cette connotation a une connotation, comme vous le disiez, négative. Et il définit aussi un groupe sans individualité, sans spécificité, par exemple, de pays ou même de religion. En France, on dit les Arabes, mais moi, j'aimerais bien qu'on me dise qui sont les Arabes. Et donc, quand je dis avec ma tête d'arabe, c'est aussi pour montrer que c'est aussi pour répondre aux ce que j'appelle aux racistes un peu timides, qui, quand ils vous parlent, savent pas trop sur quel pied danser. Et donc, voilà, moi, c'est un peu comme ça que j'ai été élevée. C'est un peu, voilà, on gifle un peu avec les mots. Et c'est aussi une façon, quand j'anime des ateliers d'écriture avec des jeunes élèves, parfois je les mets aussi face aux assignations qu'ils ont eux-mêmes intégrées en étant eux-mêmes des personnes racisées, hein. Je leur dis, avec ma tête d'arabe, vous vous êtes pas dit que je pouvais faire ci ou ça. Et c'est une façon aussi de montrer que on peut mettre tout derrière ce terme.
Et justement, votre père, vous le disiez, donc il se voit pas comme arabe, il se voit comme... Comment est-ce qu'il se voit, vous le diriez, vous, avec les nombreuses discussions que vous avez dû avoir à l'occasion de ce livre ?
Alors, on va rentrer dans de la technicité algéro-algérienne, mais c'est
intéressant.
Mais c'est hyper intéressant. C'est pour voir, ouais. En fait, donc il y a vraiment énormément de personnes qui revendiquent cette identité arabe, notamment en Algérie. Hein. Mon père, lui, il vient de Kabylie, donc c'est une région en Algérie. Donc mon père, sa langue maternelle, c'est pas l'arabe déjà, c'est donc le kabyle, une sorte de tamazight. Et donc pour mon père, il revendique pleinement son algérianité. Hein. Maintenant, il est binational, mais voilà, pendant longtemps, il a aucun problème avec le fait d'être algérien. Mais lui, il se considère comme berbère, comme amazir. Donc, et pas comme arabe. Il n'utilisera jamais ce terme. Mais d'autres peuvent le faire et libre à eux.
D'accord. Et justement, vous racontez beaucoup de souvenirs d'enfance, de souvenirs notamment avec votre père. Parfois, on se demande si c'est des souvenirs qu'il vous a racontés, dont vous vous souvenez, par exemple, au début de votre ouvrage, vous racontez des vacances et la manière dont un propriétaire jauge votre père et comment il lui parle, la manière dont il sous-entend plein de choses et dont votre père lui répond assez magistralement. Est-ce que c'est des choses, c'est un mélange de choses qu'il vous a racontées, dont vous vous souvenez, par exemple ce truc des vacances, vous l'aviez perçu à cette époque ou c'est des choses dont vous avez parlé a posteriori?
En fait, donc là, pour recontextualiser, pardon, c'est donc on est avec mon père et un groupe d'amis, les adultes ont loué un gîte. Et le propriétaire est clairement raciste. Et en fait, quand il voit descendre de la voiture, et là, par exemple, le terme d'arabe a tout son sens, il voit descendre de la voiture des arabes. Hein, il s'en fiche qu'on soit algérien ou marocain, ouais, ou ouais. Voilà, des arabes. Donc là, ce que ça représente en France, dans la France post-coloniale.
Post-coloniale.
Ouais, voilà. En gros, il a peur pour sa maison. Il a peur, en gros, pour être cash, qu'on lui saccage sa maison ou qu'on lui vole des trucs parce qu'il fait un état des lieux, c'est du jamais vu, quoi. Il note même les tables, les meubles, voilà, comme si on allait partir avec le frigo, quoi. Et donc ça, moi, c'est sur le coup, je sens qu'il y a un malaise. Mais je mets pas le mot racisme dessus. Par contre, ce que je vois, c'est la réaction de mon père. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pu observer tout au long de ma vie. C'est il rend coup pour coup. Encore une fois, avec les mots. Mais voilà, on se laisse pas faire. On répond. Moi, mon père, quand je lui dis, je le dis dans le livre, quand je lui dis... voilà, là, j'ai vécu telle ou telle situation raciste. Le premier truc qu'il me dit, c'est « qu'est-ce que t'as répondu ?» Il me dit pas « c'est pas grave, ma fille ». Voilà, c'est « on répond ». Et donc là, c'est un peu ça aussi que je décris dans ce chapitre. C'est de voir en fait aussi mon père tenir tête et rester lui digne dans ces moments-là. Ça a été vraiment quelque chose de très important dans ma vie. Ouais.
Ça a été structurant.
Ouais.
On va faire une toute petite première pause musicale. J'ai jeté ma fiche par terre et je ne sais plus quel titre c'est, mais c'est pas grave.
Yeah.
Nous sommes de retour. Vous écoutez le 93.9 FM. Vous êtes sur Radio Campus Paris. Vous écoutez On se lave et on se casse. Et on est toujours avec Aïda Amara, autrice de l'ouvrage Avec ma tête d'arabe aux éditions Hors d'attente. Ce que j'allais dire avant la pause, c'est que dans votre livre, donc, vous racontez beaucoup de souvenirs avec votre père, notamment ce souvenir dont on parlait sur les vacances et la perception du racisme, etc. Vous parlez aussi de votre grand-mère, Taous, de son rôle héroïque pour aider le maquis pendant la colonisation de l'Algérie par la France, et des moments aussi de l'enfance de votre père. Qu'est-ce que ça apporte pour vous ? Qu'est-ce que ça vous a apporté dans l'écriture de ce récit, de remonter aussi loin dans l'histoire et dans votre mémoire familiale ?
Je pense que c'est avant tout un livre sur la lignée. Donc, c'est un peu dans cette espèce de quête de reconstruction. Forcément, je suis allée chercher mes aïeux, quoi. Et en fait, c'est pour moi, je parle de transmission, c'était important de parler de ma grand-mère Taous, qui a élevé seul mon père, et ensuite mon père m'a élevé seul. Donc voilà la lignée dans tout ce qu'elle a, dans tous les trous qu'elle a, et dans tout ce que l'histoire a produit. Par exemple, voilà, mon grand-père, le père de mon père, lui est mort tabassé par les harkis et l'armée française quand il était tout petit. Donc c'est pas quand même une histoire anodine, et c'est des histoires que moi, en tant que Française, je n'ai pas appris à l'école. Et c'était important pour moi, en fait, que ces histoires et que ces destins effacés retrouvent un peu leur place, à ma petite échelle évidemment, mais retrouvent leur place dans le récit, français. Et comme vous l'avez dit, on parle beaucoup. Quand on parle de résistance, on parle toujours des combattants, de ceux qui ont pris les armes. C'est clair, c'est plus impressionnant et tout. Mais voilà, ma grand-mère Taous, elle a nourri, elle a soigné, elle a caché. Et ça demande aussi un courage que moi, je n'ai pas eu à avoir, et que je pense est important de saluer.
Et ça l'est. Il y a une autre chose qui m'a marquée et qui n'est pas tout à fait en lien direct, c'est que vous appelez votre père Slimane tout au long du bouquin. Pas papa, pas un autre mot, pas père, pas autre chose.
Pourquoi ce choix ?
Alors, parce que pour moi, c'est un personnage du livre, donc il a un nom. Et aussi, par rapport à ce que je disais précédemment, c'est vraiment pour ancrer, quoi. C'est pas seulement mon père, c'est Slimane, c'est Taous, c'est des... Voilà. À un moment, il s'est posé la question de faire, d'incorporer de la fiction dans le livre. Donc, l'idée, c'était de, je sais pas, de m'appeler Nadia et de changer les prénoms. Parce que, bon, souvent, les premiers romans ou les romans tout court, on dit romans, mais les auteurs, les autrices, au final, c'est quand même vachement inspiré de leur vie. Donc, bon, on se demande ce qu'ils ont vraiment, ce qui relève vraiment de la fiction. Mais bon, pourquoi pas, j'adore aussi cette forme-là. Mais en fait, moi, ce qui m'a un peu chagrinée dans cette idée, c'était d'effacer les prénoms de mes parents, de mes grands-parents. Et donc, c'est vraiment ça, en fait, qui a fait que je suis restée, moi, Aïda, dans le récit. C'est la volonté de ne pas les effacer, eux.
Mmh, mmh. Il y a aussi cette... je me demandais aussi si c'était par rapport au fait que vos oncles, etc., ils ont des pseudos par rapport à la résistance, etc. Donc, il y a un truc aussi où votre père, Slimane, dit « Bah, moi, mon pseudo, c'est Slimane. » En fait, mon vrai nom, c'est Slimane, parce que Papette, la guêpe, et voilà. Est-ce que c'était par rapport à ça aussi ?
Pas vraiment, parce que en fait, donc c'est mon père qui a été militant en France et en Algérie, et donc évidemment c'était à l'époque clandestin, et donc il leur fallait des pseudos à lui et à ses camarades, et donc mon père, malin comme il est, il s'est dit bah moi mon pseudo ce sera Slimane, comme ça tout le monde va se dire que c'est comme voilà, comme vous disiez, comme ça tout le monde va se dire que c'est un pseudo, et il y a encore des gens aujourd'hui que moi j'appelle par leur pseudo de militant, que j'ai appris il y a 4 jours que c'était pas ça en fait, mais non, parce que lui pour le coup ça a toujours été son prénom, et moi je l'ai pas connu en militant. Donc c'était vraiment par rapport à cette histoire que j'ai peur de voir effacée en fait.
Donc c'est vraiment pour garder la mémoire, c'est aussi ça. Enfin, vous avez exactement vraiment écrit des mémoires aussi. Il y a une phrase qui m'a marquée aussi, c'est « Les enfants d'immigrés sont comme ça, ils croient dur comme fer aux principes républicains et ensuite ils grandissent ». Vous avez grandi à Ménilmontant, c'est ce que vous avez expliqué dans une autre interview, qui est un quartier de Paris avec une grande mixité, et c'était votre endroit de socialisation secondaire direct après votre domicile. Est-ce que vous avez, a posteriori, senti une sorte de rupture une fois que vous avez élargi vos horizons ? Vous vous êtes dit peut-être à l'école, même déjà, c'était autre chose que dans ce quartier-là ?
Oui, alors... Moi, ce que je dis, c'est que Ménilmontant m'a protégée du racisme pendant très longtemps, parce que le groupe protège. Et voilà, Ménilmontant, c'est un quartier où il y a énormément d'immigration de tous les pays, mais algérienne en particulier, et si on zoome encore même kabyle en particulier. Et donc, moi, dans mon école primaire, dans mon collège, j'étais une parmi tant d'autres, et j'étais même plutôt privilégiée par rapport à beaucoup d'enfants qui étaient à l'école avec moi. Et il y a eu une bascule, oui, après, au lycée et a posteriori, évidemment, dans le milieu du travail. Là, clairement, on rentre dans quelque chose où on devient une minorité. On est de moins en moins nombreux. Moi, je me souviens, sur les bancs de la fac, en première année, énormément de racisés. En troisième année, on est 5, quoi. Donc c'est, oui, bien sûr que c'est à ce moment-là que c'est le plus violent, on va dire. Et oui, c'est pour ça que je vais toujours... aujourd'hui, j'habite à 15 minutes de Ménilmontant, mais j'y vais me ressourcer chaque semaine.
Vous parlez à travers tout ce que vous racontez d'un sentiment de ne pas être à sa place quand vous sortez de cet endroit-là de protection. Vous parlez aussi beaucoup de l'école et de son rôle, des lectures, de la culture dans votre construction. Est-ce que ça vous a protégé aussi face au sentiment de ne pas être à votre place ou ce qu'on vous faisait sentir que vous n'étiez pas à votre place ?
Oui, alors, c'est moins clair que ça. C'est ouais. pas on vous dit t'es pas à ta place. C'est parfois on est un peu regardé comme une bête curieuse ou voilà, il y a des petites choses hein, du quotidien, des microagressions évidemment que toutes les personnes un peu racisées et autres hein, bien sûr, pas que peuvent ressentir. Et moi, je me suis toujours servie de la culture comme d'une arme. D'une arme contre les personnes justement qui voulaient m'assigner à une identité présumée ou qui m'étalaient un peu leur ignorance un peu crasse. Donc c'était une façon de dire non seulement je sais de quoi tu parles, j'ai tes codes, je partage cette culture-là, mais en plus... je la connais mieux que toi.
Ça, c'est la première anecdote de votre ouvrage, quand vous arrivez à... Je ne sais plus dans quel lieu c'était.
Mais un ministère.
Un ministère où ouais. vous avez un vigile qui essaye de faire... qui prononce mal votre nom, qui vous donne en fait un tout autre prénom et qui finalement, que vous arrivez à épingler par le verbe. Et qui était une très bonne punchline pour leur dire que... Franchement, il faudrait se remettre à sa place, justement. Ça, l'humour, c'est une grande arme que votre père vous a inculquée. Une sorte, une arme pour, face au manque de respect en face. Est-ce que ça vous a structuré, cette arme-là ?
Oui, complètement. Déjà, le livre parle quand même de colonisation, d'attentats. franchement, ça peut faire flipper. Je tiens à dire aux lecteurs et aux lectrices.
Ça ne parle pas que de ça.
Ouais, et que on parle pas que de ça. Et puis surtout, c'est voilà, c'est pas plombant. Peut-être c'est pas à moi de le dire.
Non, c'est pas plombant du tout. C'est très drôle en fait par moment.
Voilà, en fait, je pense qu'il y a un truc aussi qui est très qui est dans ma famille, mais qui est aussi très qu'on retrouve dans pas mal de cultures et en Algérie, c'est aussi comme ça. On rigole un peu de son malheur. Il faut bien, quoi. Et donc, on n'est pas là pour être dans une forme de pathos un peu larmoyant. Les situations les plus dramatiques sont aussi les situations où on... Pas les plus drôles, mais en tout cas celles où on peut se permettre le plus d'utiliser l'humour pour un peu décompresser. Parce que sinon, la vie est trop dure.
Pour désamorcer un peu le pathos. On fait une deuxième pause pour écouter notre première chroniqueuse, Chloé. Pour Chloé, la rentrée a une saveur toute particulière. Parce qu'elle aussi, elle a sorti un premier roman, sorti en librairie le 12 septembre. Et ce n'est pas n'importe quel bouquin, puisque c'est un roman sur le parcours initiatique de Médée, la fameuse Médée, qu'on connaît trop peu vraiment. Et parce qu'après 2 ans de chronique sur les relectures féministes des mythes, Chloé a écrit sa propre version d'un mythe. Ce livre, c'est Médée, naissance d'une sorcière aux éditions Talent Haut. Chloé, pourquoi avoir choisi de parler de Médée ? C'est la rentrée et c'est aussi la rentrée pour notre chroniqueuse Chloé. Salut Chloé !
Salut !
Et quelle rentrée ! Si vous ne le saviez pas, Chloé est désormais autrice d'un premier roman sorti en librairie le 12 septembre et ce n'est pas n'importe quel bouquin, puisque c'est un roman sur le parcours initiatique de Médée, la fameuse Médée, qu'on connaît trop peu vraiment. Et oui, parce qu'après 2 ans de chronique sur les relectures féministes des mythes, Chloé a écrit sa propre version d'un mythe. Ce livre, c'est Médée, naissance d'une sorcière aux éditions Talent Haut. Pourquoi avoir choisi de parler de Médée ?
Alors Médée, on la connaît soit comme la mère infanticide, soit comme un personnage secondaire des mythes d'autres héros grecs, ou bien on ne la connaît pas. Mais en général, si on la connaît, on s'arrête à la légende monstrueuse de la femme qui tue ses enfants par dépit amoureux. Mais pourtant, dans les versions les plus anciennes du mythe, ses enfants meurent, mais ce n'est pas elle qui les tue. Alors moi, quand j'ai découvert ça, je me suis demandé pourquoi on se souvient vraiment que de la version la plus sensationnelle, la version la plus à charge contre elle. Et je pense que ça tient à l'histoire des mythes. Les mythes, ce sont des récits qui sont venus du fond des âges. Ils ont d'abord été transmis oralement, et puis ils ont été fixés à l'écrit par des auteurs. Et les auteurs, c'était tous des hommes qui ont pu, avec les préjugés de leur époque, réduire les personnages féminins à des rôles subalternes ou monstrueux, à des rôles d'obstacles ou de prix à conquérir pour des héros qui étaient des hommes. Mais si Médée pouvait nous raconter son histoire, qu'est-ce qu'elle nous dirait ? En écrivant ce livre, j'ai essayé d'adopter son point de vue et écrit à la première personne. Et je me suis rendu compte que ce qu'il fallait, c'était revenir aux sources, revenir à l'origine du personnage. Et je me suis intéressée à quelque chose qui n'avait pas intéressé les auteurs jusqu'à présent, son enfance et sa jeunesse.
C'est l'une des particularités de ce livre, revenir sur l'enfance de Médée. Alors pourquoi t'as choisi de faire ça comme ça ?
Alors en fait, ce que je voulais, c'était comprendre comment on devient Médée. Comment on devient cette magicienne puissante que toutes les versions du mythe attestent ? Et pour moi, ça posait une question intemporelle, une question qui est comment on assume ses pouvoirs et comment on ose prendre la place qui nous revient. Et dans le roman, j'entrevois deux pistes de réponse, la transmission et la sororité. Et pour moi, c'est vraiment ces deux forces qui donnent à Médée la possibilité de s'affirmer.
Ce livre, c'est donc l'histoire de la jeunesse de Médée, racontée par Médée. Pourquoi le changement de point de vue change l'histoire ?
Alors vraiment, changer le point de vue, ça change toute l'histoire. En faisant de Médée la narratrice du roman, j'ai découvert qu'elle n'était pas une méchante ni un personnage secondaire, mais simplement une femme libre, une femme puissante, qui refuse le destin tout tracé qui l'attend et qui écrit son propre chemin. Et aujourd'hui, ça me semble important justement, quand on se construit en tant que femme, on peut chercher d'autres modèles que ceux qui sont présents dans les récits traditionnels et dans nos imaginaires collectifs. Et si on se tourne vers les mythes, on pourrait être un peu découragé et se dire que les rôles féminins sont limités. Pénélope qui attend son mari, Hélène la belle pour qui une guerre éclate, ou encore une des innombrables victimes de Zeus. Mais si on fouille, on trouve déjà dans les textes, déjà dans les mythes, ces figures alternatives. Elles sont sous nos yeux et il suffit de les remettre au centre. Et pour ça, ce qu'il faut, c'est débarrasser nos mythes du male gaze. Et c'est ce que j'essaye de faire dans cette chronique, et c'est ce que j'ai voulu faire avec Médée, naissance d'une sorcière, redonner une voix à une héroïne trop longtemps enfermée dans les récits des autres.
Merci beaucoup, Chloé.
Je rappelle que ton nouveau livre Médée, donc Naissance d'une sorcière, est aux éditions Talents Hauts et disponible dans toutes les librairies. Et moi, personnellement, en toute objectivité, je vous le conseille.
On se lève et on se casse sur Radio Campus Paris.
Vous écoutez toujours On se lève et on se casse sur Radio Campus Paris. Comme je le disais, Aïda Amara, votre père tient une place très spéciale dans ce livre, centrale même. On sent l'importance qu'il a dans votre vie, que ce soit parce qu'il vous a élevé après le décès de votre mère. Mais vous racontez aussi à quel point la famille n'est pas nucléaire. Chez vous, la famille, c'est un cercle très très étendu où il y a une énorme importance des cousines, des tantes qui ont été très, très, très présentes pour vous, notamment après les attentats. Quelle place tient cette famille dans la façon d'affronter les assignations au quotidien ?
Alors déjà, c'est important de dire que moi, ma famille, elle n'est pas nucléaire et cette idée de famille nucléaire, je trouve que il n'y a rien de pire pour les femmes, en fait. Là, moi, je suis en postpartum avec un bébé de 7 semaines. Donc, clairement, là, on voit l'importance du village, comme on dit, pour élever un enfant. Et c'est quelque chose qu'on a beaucoup perdu. Alors oui, pour moi, culturellement, c'est quelque chose qu'on essaye de maintenir, même si évidemment le système aussi capitaliste dans lequel on vit ne permet pas forcément de maintenir ce tissu social. Mais oui, moi, ma famille nucléaire, en fait, c'est mon père et moi. Donc c'est déjà bien, mais c'est pas beaucoup. Et donc, c'était vraiment important, qu'on élargisse tout ça. Et y a de même les personnes que j'appelle tantes et cousines dans mon livre, on n'a pas de lien de sang. Mais c'est ma tante et c'est mes cousines. Mmh. Donc, ça, c'est quelque chose que moi je veux garder. C'est, on parle d'héritage, on parle de qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on perd. Moi, ça, c'est quelque chose que je veux garder et quelque chose que je veux transmettre à mon fils. Et donc forcément, ça a un rôle dans les assignations parce que bah, ça renforce et en fait il y a un moment contre les assignations, évidemment qu'il y a des réponses politiques, etc. Mais dans le foyer, voilà, le fait, la douceur, l'amour, en fait, qu'on se porte les uns aux autres, c'est aussi fondamental pour affronter tout ça, quoi.
Et vous racontez aussi, concernant votre père, qu'il a du mal à s'estimer victime de racisme, que quand vous en parlez, lui il dit bah non, j'ai pas vécu ça. Et aussi il relativise, il raconte bon, là, je connais des gens qui ont vécu tellement pire que c'est difficile de s'estimer victime de racisme pour lui. Mais en fait, mettre les mots sur des choses, c'est les faire exister de manière palpable et désignable et traitable. En quoi est-ce que vous, ça vous a impacté le fait que votre père se positionne de cette manière, vous diriez, peut-être a posteriori, peut-être
En fait, enfin, on retrouve cette notion-là dans plein de moments dans le livre, mais particulièrement dans un chapitre que j'ai appelé « Sale arabe ». Parce qu'en gros, je dis à mon père, bon, est-ce que toi, t'as vécu du racisme ? Il me dit, non, pas du tout, jamais. Puis au fur et à mesure, il me dit, bah oui, bon, on m'a traité de sale arabe, quoi. Bah, je devais courir quand il y avait les policiers, quoi, normal. Et donc, en fait, je trouve que c'est important. Lui, il avait l'impression que je cherchais un peu... Il avait peur que ça crée du ressentiment chez moi. Il avait l'impression que je remuais un peu quelque chose qui n'était pas nécessaire. Que bon, en gros, c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Faut le combattre structurellement. Mais bon, moi, dans mon expérience personnelle, ça n'a pas été constructif. Mais en fait, quand on dit ça, qu'est-ce que ça fait après sur moi et les autres enfants c'est que nous, on va avoir du mal aussi à se considérer comme victime quand ça va nous arriver. Et en fait, le fait de reconnaître qu'on vit une expérience négative, c'est quand même important. Et je parle même pas de l'espèce de vieux procès en victimisation que énormément de racistes font aux personnes qui en ont subi. Ça, moi, ça m'impacte même pas. Pour moi, en fait, quand on utilise cet argument de voilà, les personnes racisées se victimisent, pour moi, c'est tellement pathétique que je n'ai pas envie d'y répondre. Parce que moi, je sais que, au contraire, mon père, il m'a caché ces expériences-là. Donc, voilà, c'était aussi important de faire émerger cette parole pour s'autoriser, nous, ensuite, à être affectés par des expériences négatives si elles nous arrivent.
Du coup, ce livre, c'est un peu le résultat de ça, finalement. C'est un peu le résultat du processus d'arriver à se reconnaître en tant que victime de tout ça.
Oui, bien sûr, parce que, en fait, je me disais, mon père, il a vécu la guerre. Voilà, et donc... il va bien, entre guillemets, c'est-à-dire il se plaint pas. Comment moi, en fait, là, j'ai vécu les attentats, c'était un soir, c'était pas plusieurs années. Comment moi, je me retrouve dévastée comme ça, je peux pas me le permettre, quoi. Et c'est en allant chercher... ces traumas à lui, les traumas familiaux et évidemment transgénérationnels, que je me suis un peu autorisée à reconnaître un peu ce qui m'était arrivé.
Ça, c'est intéressant parce que pour certaines personnes racisées, on va dire, les termes sont complexes, il y a plein d'utilisations de termes, et certains auraient tendance à relativiser, voire à prendre du recul, mais trop de recul, en se disant « Bon, ouais, il y a tellement de choses pires qui sont arrivées par le passé, comment moi je me reconnais victime de quoi que ce soit ?» Et vous, ça a eu l'effet inverse, j'imagine, avec beaucoup de travail, Comment vous expliquez que vous êtes arrivé à ça, en fait, à ce résultat-là?
Alors, au début, j'étais exactement dans cet état d'esprit. Hein. Mon père, sans parler de ma grand-mère, ont vécu bien pire. Comment moi, je me retrouve là, encore complètement figée dans ma, et complètement traumatisée à ne rien pouvoir faire, alors qu'eux, ils ont vécu pire. Enfin, c'est nul, quoi. Je suis pas à la hauteur. Et en fait, en allant chercher cette histoire familiale, ça m'a, je me suis sentie moins seule. Évidemment, les liens que j'entretiens avec ma famille ne sont pas que traumatiques, évidemment. Mais en fait, le fait de savoir que j'étais pas seule à avoir vécu quelque chose, parce que à Paris, tout le monde se fait pas tirer dessus à la Kalachnikov, quoi.
Non.
Donc, et tant mieux. Mais du coup, voilà, c'est assez isolant comme expérience. Et c'est isolant, mais pas quand on a un père qui a vécu la guerre d'indépendance algérienne. Lui aussi, il a vu des gens se faire exécuter devant ses yeux. Mmh. Donc ça m'a permis d'être moins seule, d'être ensemble à la fois dans le trauma, mais à la fois aussi dans la volonté de guérison. J'aime pas, on dirait que c'est un truc un peu mystique, bizarre, mais voilà, dans cette idée de guérison.
Ouais, c'est de la guérison. Ouais. C'est de la psychologie, c'est de la santé mentale, c'est de la guérison. On a encore du mal à utiliser ce mot-là, mais la santé mentale, c'est de la santé.
C'est vrai.
Qu'est-ce que je veux dire? Oui, mais là, c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'on arrive au nœud, en fait. Moi, je me demandais pourquoi, justement, le livre, il est structuré d'une manière où parfois on a l'impression de remonter dans des couches de mémoire de votre cerveau, où par exemple on est au ministère, et puis après on est au petit Cambodge, et puis après on remonte à la guerre d'Algérie, et on voit bien les parallèles que vous faites dans votre écriture, on voit que les corps qui tombent, c'est des choses que vous connaissez à votre tour, et que vous faites des parallèles, et qu'il y a quelque chose là-dedans de la comparaison et de trouver des ressources. Comment les récits de vos parents sur l'Algérie, ça a façonné votre regard sur ce qui vous est arrivé par la suite?
Ça m'a... En fait, c'est un peu l'inverse. C'est après moi avoir vécu ça, j'ai eu besoin d'aller chercher de manière plus vive ces récits-là, les récits de mes parents et de mes grands-parents et de leur histoire avec l'Algérie. Parce que j'utilise un peu cette analogie, mais voilà, c'est un peu comme un arbre un peu chahuté dans la tempête. Je me suis un peu cramponnée à ce que je trouvais de tangible. Et je dis que c'est mes racines. Et mes racines, c'est mes parents. Il s'avère qu'ils sont algériens et qu'il y a une histoire entre les deux pays qui est pour le moins dramatique. Donc, c'est ça que j'ai eu besoin d'aller chercher avant moi. Et de... Parce que ça protège aussi, je trouve. Ça protège, en fait, de savoir qu'on vient de quelque part, de se connaître soi, de connaître son histoire. Et son histoire, c'est pas seulement moi, aujourd'hui, à Paris. Je suis issue, voilà, comme je dis, d'une longue lignée d'hommes et de femmes qui ont vécu tant de choses avant moi. Et moi, je trouve que ça donne beaucoup de force d'aller chercher ces histoires-là.
Bah oui, j'imagine que ça doit donner beaucoup de force. Justement, oui, vous expliquez que plonger dans l'histoire de la famille algérienne, ça vous a aidé à vous reconstruire. Et peu importe effectivement notre héritage, on choisit ce qu'on garde et ce qu'on laisse de côté. Peu importe qui on est et d'où on vient, finalement, on a toujours un choix à faire. Qu'est-ce que vous avez voulu garder de cet héritage avec du recul quels sont les aspects que vous avez préféré mettre à distance et quels sont les aspects que vous avez voulu garder?
Déjà, il y a des aspects que j'aurais voulu garder que j'ai perdu. C'est par exemple les langues. Moi, j'ai dit que j'ai deux langues maternelles parce que j'ai été élevée par mon père, donc qui parle le kabyle, mais qui est arabophone aussi. Et ma mère, dont la langue maternelle était l'arabe, ça, je ne les parle pas. Donc voilà, il y a des choses que moi, j'ai perdues en cours de route, j'en ai gagné d'autres. Moi, ce que je dis, c'est que je suis aussi la première génération, on parlait de santé mentale, je suis la première génération à aller voir un psy et à pouvoir me soigner. Et ça, c'est quand même pas rien. Et après, en termes d'héritage, je disais tout à l'heure, évidemment, le refus de la famille nucléaire, ça, je pense que c'est quelque chose... c'est l'un des aspects principaux que j'ai envie de garder.
Le temps, oui. J'avais envie de vous demander quelle forme de discrimination vous ont marqué le plus. C'est une question qui est très générale, mais en même temps, ça lie le politique et l'intime, ce qui vous a marqué, vous. Et je trouve que c'est important depuis les attentats, avec le recul que vous avez historique sur votre histoire familiale. Qu'est-ce qui vous marque le plus en termes d'expérience?
Alors... Bon, sans parler du climat ambiant, c'est-à-dire politico-médiatique, avec certains... Voilà, quand on a... je ne ferai pas le feuilleton de Retailleau et l'Algérie, on l'a tous suivi.
Oui, j'en ai pas parlé, mais...
Voilà, c'était une petite ambiance. mais oui, je pense que ce qui m'a marqué le plus, personnellement, c'était un peu cette espèce de racisme mièvre, de personnes qui sont parfois étonnées de ce que je suis. Je parle pour moi, parfois comme s'ils étaient un peu surpris que je sache m'exprimer, ou enfin, des choses un peu quand même bateau, mais qui voilà, ce petit sentiment un peu latent d'être souvent sous-estimé dans certains domaines qui seraient réservés à certaines personnes. Ça, ça me met en colère.
Il y a de quoi. Franchement, ce serait normal de pas l'être. Et justement, on va parler maintenant de journalisme et des médias, qui est un gros sujet. Le milieu du journalisme, si vous ne le savez pas, c'est quand même vachement endogène. On n'y rentre pas n'importe comment. Pour le moment, il est très blanc. Il reste très blanc, très élitiste, très endogène. Et donc, c'est compliqué pour des personnes qui ne sont pas blanches, qui n'ont pas les contacts, qui n'ont pas les codes sociaux, de rentrer dans le milieu journalistique. Ne serait-ce que parce que quand on rentre dans le milieu journalistique, on nous impose tout un tas de codes. Et si on ne les a pas, ça fait un sacré travail à s'avaler, parce qu'il faut les comprendre et personne ne va les expliquer. Voilà, ça c'est le petit laïus média. Vous, quand vous êtes entré dans le milieu journalistique, donc très blanc, très endogène, très élitiste, ça a dû être compliqué quand même. Ça a dû être, j'imagine, peut-être pas. Peut-être que sur le coup, ça s'est bien passé, je ne sais pas.
je raconte dans le livre quelques expériences ça ne s'est pas toujours passé comme ça, mais c'est vrai que, en fait, c'est toujours le problème d'être le seul ou la seule dans la pièce. Et quand on est le seul ou la seule dans la pièce, on devient une sorte de porte-parole de plein de choses qu'on n'est pas. Et donc moi, parfois, j'étais la porte-parole donc des Arabes, des banlieues, experte en arabologie, en islamologie, sans... tout ça, en fait, sans forcément que ce soit des choses que je représente. Hein. Par exemple, moi, je suis née dans le 93, mais j'ai grandi, comme je le disais, à Ménilmontant. Même si, évidemment, après, j'ai énormément travaillé en banlieue, je ne vis pas en banlieue. Donc, peut-être que si on veut parler de banlieue, et encore ce terme-là, bon, on pourrait en parler, mais faut peut-être aller parler aux gens qui y habitent. Et donc, voilà, je tourne un peu en dérision tout ce qu'on imagine de moi. On imagine aussi que mon père, est ouvrier Renault, j'imagine. Enfin, vraiment des... Parce ah oui. qu'il y a énormément, en fait, de... Voilà, il y a eu une immigration ouvrière algérienne et il faut raconter ces histoires-là et raconter les récits de ces hommes et de ces femmes. Mais c'est pas le cas de mon père. Donc voilà, c'est tout ce qu'on nous colle en fait à la peau sans même avoir eu à échanger deux mots avec la personne.
Je vois que le temps passe et pour ne pas squeezer Alice, je propose qu'on écoute la dernière chronique. Donc c'est au tour d'Alice cette fois-ci. Alice, c'est notre chroniqueuse qui nous raconte les autrices qui ont gagné le prix Nobel de littérature, des femmes qui sont souvent effacée de l'histoire et oubliée. De quelle autrice tu vas nous parler en ce mois de septembre, Alice ?
Pour cette rentrée, je vous présente la lauréate de 1993, Toni Morrison. C'est peut-être l'une des plus connues, puisque ses œuvres ont été largement traduites à travers le monde.
C'est vrai, son nom, son engagement sont très reconnus, mais pour celles et ceux qui nous écoutent et qui ne connaîtraient pas trop, est-ce que tu peux nous la présenter ?
Toni Morrison, elle naît en 1931 dans l'Ohio, aux États-Unis, dans une fratrie de 4 enfants. Sa mère est femme de ménage et son père soudeur. Elle grandit dans la banlieue de Cleveland, dans un contexte multiculturel, et c'est une femme noire. Très tôt, elle est douée pour les études et elle intègre la prestigieuse université afro-américaine de Howard, puis à Cornell, pour étudier la littérature. Ensuite, elle devient professeure de littérature anglaise dans les plus grandes universités américaines et en parallèle, elle devient directrice d'édition en charge de la littérature afro-américaine. Elle contribue à cette époque beaucoup à sa diffusion, notamment avec la publication des biographies de Mohamed Ali et Angela Davis.
Et dans tout ça, où est-ce qu'elle a trouvé le temps de commencer à écrire ?
Au début, c'est avec un groupe d'écriture à Howard qu'elle commence à écrire. Mais c'est à 39 ans qu'elle écrit son premier roman en 1970. Son nom, L'œil le plus bleu. Ensuite, elle en publie d'autres, et le plus célèbre d'entre eux, c'est Beloved, publié en 1987. Ce dernier roman, en fait, il est tout particulier parce qu'il s'inspire d'une histoire vraie. Il raconte la fuite d'une esclave poursuivie par des chasseurs d'esclaves. Le personnage principal, une femme, tue sa fille de 2 ans, pour ne pas qu'elle se fasse capturer. Et le fantôme de l'enfant viendra en fait hanter sa mère et sa famille. En 1988, ce prix remporte le prix Pulitzer. 4 ans plus tard, en 1993, Toni Morrison reçoit le prix Nobel de littérature pour, je cite, « ses romans caractérisés par une force visionnaire et une portée poétique qui donnent vie à un aspect essentiel de la réalité américaine ». En 2006, elle est l'invitée d'honneur du Musée du Louvre pour des lectures, des rencontres, des spectacles ainsi qu'une exposition. En 2012, elle reçoit des mains du président Obama la médaille de la liberté. Elle meurt en 2019 d'une pneumonie et est aujourd'hui considérée comme l'une des plus grandes plumes de la littérature afro-américaine.
Alors Toni Morrison, c'est un sacré parcours et pour la chronique, lequel de ses livres tu as lu ?
J'ai lu Récitatif, la seule et unique nouvelle écrite par Toni Morrison, parue en 1983. C'est un texte très court sur l'amitié entre deux petites filles qui se rencontrent dans un foyer. L'une est noire et l'autre est blanche. Durant 4 mois, elles vont construire leur amitié avant de devoir se séparer. Elles se croiseront ensuite plusieurs fois au cours de leur vie. Alors c'est le premier texte de Toni Morrison que j'ai lu et j'ai vraiment été marquée. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'autrice ne dit jamais explicitement laquelle des petites filles est noire et l'autre blanche. Tout au long du texte, elle dévoile des éléments qui nous font poser cette question de la couleur de peau des personnages et de toute leur expérience de vie qui en découle. En si peu de pages, elle arrive à poser des réflexions essentielles, questionner les préjugés que nous avons, interroger les trajectoires de vie en tant que femme, ainsi que la mémoire de l'enfance. Pour cette rentrée, je ne peux donc que vous conseiller de lire la centaine de pages de récitatif et ainsi découvrir cette œuvre magnifique de Toni Morrison.
Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris. Merci beaucoup Alice pour cette chronique qui donne encore envie de lire Toni Morrison, ce dernier ouvrage que je n'ai pas encore lu et qui est sur ma pile à lire.
On se lève et on se casse sur Radio Campus Paris.
Vous écoutez toujours On se lève et on se casse. Il reste quelques minutes avant la fin de l'émission. J'ai beaucoup de questions et très peu de temps. On va faire au plus simple. Moi, il y a une question qui me taraude, c'est vous, comme vous avez la connaissance des médias, de l'intérieur, de comment ça fonctionne en interne, sur le choix des sujets, sur les choix des angles, etc. Quelles sont aujourd'hui les responsabilités des médias face au racisme structurel qu'on connaît en France, grandissant? Je m'arrête là parce que...
Ok, moi je laisse toujours les personnes terminer pour pas couper la parole.
Vaste question.
Je pense que la réponse est un peu dans la question. Oui, il y a une responsabilité. La représentation est importante. Embaucher des personnes racisées dans les rédactions est important, mais ça suffit pas. On le voit, il y a des rédactions qui sont très diverses, avec des lignes éditoriales, très douteuses, tout simplement parce que les personnes racisées sont pas à des postes décisionnaires. Donc il suffit pas de mettre juste une personne à l'antenne. C'est une refonte bien plus profonde, je pense, qui devrait être mise en place.
Beaucoup de travail à faire.
Ouais.
Je pense qu'il y aurait, ça mériterait deux émissions pour parler de reconstruction, parce que le livre est tellement dense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Malheureusement, j'arrive à la fin et il faut que je libère le studio. Je vais donc commencer à remercier tout le monde. C'est la fin de l'émission. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté. Merci à vous, Aïda Amara, d'avoir accepté notre invitation, d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle que votre ouvrage « Avec ma tête d'arabe » aux éditions Hors d'atteinte est disponible dans toutes les bonnes librairies. Merci à nos chroniqueuses, Alice et Chloé, d'avoir participé, d'avoir travaillé sur leur chronique et d'être là chaque saison. Chloé, je rappelle que ton ouvrage « M'aider, naissance d'une sorcière » est disponible aussi en librairie. N'hésitez pas à aller voir en librairie pour acheter ces deux très bons ouvrages. Et merci à notre réalisatrice Gabrielle pour cette émission. On se retrouve le 28 octobre prochain pour la prochaine émission. Et d'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. À très bientôt. Salut !